Fréquence Mistral.
Salut à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. Vous le savez, dans nos studios, on a le plaisir de recevoir de nombreux humoristes. Moi, ce que je trouve incroyable, puisque j'ai le bonheur et la joie de faire partie de cette grande famille de l'humour marseillais, c'est que dans nos métiers, on a tous une seconde corde à notre arc. Chaque humoriste ne peut pas vivre malheureusement complètement du stand-up à Marseille aujourd'hui, surtout les jeunes humoristes. Et souvent, ils ont un métier à côté. Donc pour moi, c'est un annuaire professionnel incroyable où je vais piocher à chaque fois que j'ai besoin. On peut trouver des plombiers, des agents immobiliers, des chauffeurs de bus, des profs, de nombreux profs, des maraîchers, donc voilà, on peut faire le tour de Marseille au travers de toutes les professions de Marseille dans le monde du stand-up et parfois, ben, au milieu de toutes ces professions, on a des ultra-diplômés, on a des grosses têtes comme on dirait, on a même des médecins. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un humoriste qui n'est pas seulement humoriste mais qui a aussi fait 10 ans d'études pour devenir médecin psychiatre. Bonjour à toi, Dalil Tari.
Bonjour Yacine et bonjour à tous les auditeurs, les auditrices de Fréquence Mistral.
Bah, c'est un plaisir de te recevoir dans nos studios, Dalil. Donc, Dalil, avant de commencer à parler de ce premier spectacle, donc première consultation, et de parler de ton parcours dans le monde de l'humour et dans la vie en général, j'aimerais que tu nous racontes, pour commencer, la première question que je garde pour tout le monde, c'est de nous raconter ta première scène de stand-up.
Alors, la toute première scène de stand-up, c'était au garage. J'avais fait quelques cours de stand-up au Garage Comedy Club, 3 rue des Frères Barthélémy. Et c'était le jour de monter sur scène. Vous savez, c'était le grand jour, j'avais fait quelques cours. Ça s'est passé sur une scène qu'on appelle les Bleus de Travail, une scène exprès pour les débutants issus de cette académie d'humour. Écoute, la salle était complète, vraiment un public très empathique pour ces soirées des Bleus de Travail. Il n'y avait aucun membre de ma famille, je pense que ça c'était cool, ça c'était assez rassurant. Et puis voilà, c'était un très très bon souvenir. Tu sors, tu te dis, ça y est, je suis une star.
Ouais, c'est de la première, t'as piqué, t'as eu la drogue dès le début. Ouais. C'est vrai qu'en plus, les scènes des Bleus de Travail, pour les gens qui n'ont pas l'image, il faut imaginer des scènes très accueillantes, puisque souvent, les gens font leur premier passage dans des caves devant 7-8 personnes, dans des ambiances un peu perdues. Et pour les Bleus de Travail, ce qui est génial, c'est que vous arrivez avec une ambiance très chaude et un public aussi qui bienveillant, puisqu'il sait que c'est votre première scène, donc il va vous soutenir, vous encourager.
Totalement.
Ouais, et toi, t'as vécu ce moment-là, donc avec de la joie et l'envie de recommencer dès le début. Quoi.
Ah, oui, t'es avec 90 personnes qui et tout. Donc franchement, ouais, c'est un souvenir incroyable.
Bah, j'en ai pas parlé dans mon introduction, mais toi, Dalil, tu viens de Corrèze.
C'est ça.
Tu es donc un enfant de la campagne qui est arrivé à la ville, tu as fait ta migration.
C'est ça.
Et est-ce que justement ça a fait quelque chose pour toi de venir de Corrèze? Est-ce que tu as l'impression que ça a eu un impact sur ta manière de voir le monde?
Oui, l'impact que ça a eu sur ma manière de voir le monde, c'est déjà quand je suis arrivé en ville, j'ai compris pourquoi pendant longtemps j'avais pas envie d'aller en ville. Moi, je suis arrivé à Marseille il y a 3 ans et demi parce qu'il fallait que je finisse mes études de médecine. Et à un moment donné, j'ai regardé Marseille et je me suis dit, putain, si je vais pas à Marseille, je vais le regretter sans trop savoir pourquoi. Et c'est vrai qu'en grandissant en Corrèze, donc un des départements le moins peuplé de France, il y a quand même un truc qui s'appelle le plateau de 1000 vaches là-bas, quoi. Donc vraiment, pour ceux qui connaissent, il y a vraiment plein de vaches. Et c'est incroyable d'avoir grandi en Corrèze dans cet environnement-là. Franchement, sur la question du regard sur le monde, avoir grandi dans cet environnement-là me fait prendre conscience qu'une grande partie du monde, à mon regard, hein, semble déconnecté de ça et qu'un simple moment de retour aux sources, même moi je m'en rends compte quand je reviens chez moi après avoir passé plusieurs mois à Marseille, il y a vraiment des moments où je me pose à côté de l'eau, d'un lac et je me dis putain en fait c'est ça quoi, j'ai pas besoin d'autre chose.
Ouais, c'est vrai que je pense que tous les enfants, j'en fais partie, hein, qui ont grandi à la campagne, quand on vit en ville, on a toujours cet arrachement au fond de soi, le bruit des voitures, c'est pas pour nous. Bah justement, on en parlait dès le départ, mais donc ce premier spectacle, première consultation, toi tu es médecin psychiatre, donc c'est un long parcours que tu es en train de finir là, parce que tu vas rendre ta thèse là prochainement, c'est bien ça?
C'est ça, le 28 octobre.
Ok, bah, bon courage à toi, parce que je sais que les derniers maîtres ne sont pas les plus faciles
non
plus.
Pas du tout.
Première thèse, bah tiens, pour... on va digresser, mais première thèse, c'est quoi le thème de ta thèse?
Alors, le thème de la thèse, c'est le stand-up en tant que médiation thérapeutique, une approche exploratoire chez une population psychiatrique. En fait, j'ai eu la chance, dans le service des appartements thérapeutiques orchestré par le docteur Adam Oli à Montperrin, à Aix-en-Provence, de pouvoir faire des ateliers de stand-up avec des patients qui souffrent d'un trouble psychotique d'intensité légère à modérée. Et en fait, le but était de voir si ça les améliorait sur plusieurs plans, et notamment le plan de la réhabilitation dans la vie quotidienne, sur l'anxiété, sur la capacité à être plus à l'aise avec les gens, toutes ces choses-là qui sont altérées dans certains troubles et pathologies mentales. Et voilà, la conclusion, c'est rire ça améliore.
Donc c'est incroyable. Donc c'est prendre des patients donc, et venir et leur apprendre comment des clés pour faire des blagues et comment rigoler ça. Avec leur maladie.
En fait, c'est ça, c'est la médiation thérapeutique. Le but de la médiation thérapeutique, c'est en fait d'utiliser un média, un truc entre toi et une autre personne pour réussir à atteindre un objectif, et là, dans cette visée-là, thérapeutique. L'objectif, il est thérapeutique. Par exemple, typiquement en stand-up, il y a du roast. Dans le stand-up, il y a du roast. C'est-à-dire que tu peux t'autoriser à vanner fort quelqu'un. Alors que si tu prends juste cette personne-là, sans stand-up, sans rien, eh ben, tu la vannes directement, elle peut se vexer. C'est plus froid. Ben là, le média va être, par exemple, dans cet exemple-là, le stand-up. Et ben là, typiquement, c'était aussi le stand-up. Le but était, par exemple, de pouvoir permettre aux patients de débloquer certaines manières de rire, certaines façons de s'exprimer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont refoulées, notamment dans les questions de santé mentale. Il y a des patients qui vivent des choses dures en hôpitaux, des patients qui ont besoin d'exprimer des choses, et même nous, parce qu'à ce moment-là, la frontière entre patient et soignant, elle est fine. Donc en fait, on se rend compte que l'humour peut être un vrai moyen pour nous d'exprimer des choses qui sont parfois difficiles à exprimer autrement, par exemple comme avec la musique, et hop, on a une sensation de libération, et un autre regard, on peut vraiment travailler avec ça, quoi.
Ouais, et ce qui est incroyable, c'est que donc, tu as mis le stand-up dans la psychiatrie et donc dans ta thèse, et tu as mis la psychiatrie dans ton stand-up et sur scène, puisque tu en parles tout aussi régulièrement. Donc, tu as réussi à marier les deux dans les deux mondes.
On essaye. En fait, comment dire, cet apprentissage, il est riche parce qu'on se confronte depuis tout petit au monde. Et dans ces études de médecine, notamment la psychiatrie, on se confronte à la douleur psychique et parfois à des choses plus dures. Et le fait de pouvoir rencontrer ces gens-là, c'est accéder à une certaine vérité. Bien sûr, il faut nous travailler avec cette vérité pour réussir à vivre confortablement avec. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, évoluer sur le plan personnel avec toutes ces rencontres, ça enrichit. L'intégrer dans le stand-up, c'est plus particulier parce qu'à ce moment-là, dans le stand-up, moi, je ne parle jamais des patients. Je ne parle jamais des patients. C'est vraiment quelque chose qui est précieux et quelque chose même à laquelle je ne pense pas parce que c'est des moments de consultation, c'est des moments sérieux, même si des fois il y a de la légèreté. Par contre, je parle de mon ressenti en tant que moi praticien, mais c'est vrai que du coup, avoir mis le stand-up à l'hôpital, vraiment, ça a permis aux patients et aux équipes aussi soignantes, les infirmières, les infirmiers, les médecins, autres aussi, ont pris cet outil-là pour exprimer on en a marre, au self c'est jamais bon, on est toujours en retard quand l'ambulance en a besoin d'elle, enfin tu vois, plein de trucs comme ça quoi.
Mais c'est vrai que dans la médecine, pour avoir fréquenté pas mal de gens qui ont fait des études de médecine, j'ai l'impression que vous avez tendance à utiliser l'humour comme une soupape de décompression. Moi je sais que j'entends les vannes des fois qui sont faites par des médecins, et à chaque fois je me dis oh, ils ont vraiment pas peur de l'humour noir quoi. J'imagine que c'est une manière aussi de vider le trop-plein et l'horreur qu'on peut vivre justement des fois, mais la question c'est, est-ce que toi, parce que quand on connaît l'humour en porte-close des médecins, est-ce que toi tu t'autorises ou est-ce que tu censures justement certaines vannes sur scène en te disant les moldus vont pas comprendre si je fais cette blague là?
En fait, c'est une position particulière, c'est une très bonne question que tu poses là, parce que évidemment les médecins ils adorent l'humour noir. Souvent c'est vraiment un moyen de décompression intense. Et je peux te dire que dans les murs de l'hôpital, l'humour est parfois vraiment acide. Plus tu vas dans un service difficile, plus l'humour il va être acide. Donc tout ce qui est réa, tout ce qui est médecine légale, tu vas avoir beaucoup d'humoristes avec des talents cachés. Mais oui, c'est parfois difficile parce que dans ma position de soignant et encore plus de médecin psychiatre, il y a une éthique à respecter. Et c'est vrai que nous-mêmes, on est traversé par des fois des pensées qu'on n'ose pas divulguer. Et c'est vrai que sur scène, oui, je m'y autorise, mais je fais toujours passer un message très important. Je raconte qu'on doit développer de l'empathie pour des gens, des fois chez qui c'est pas autorisé dans notre société. Et je raconte comment on navigue là-dedans. Je raconte notamment la première fois que je suis tombé en consultation devant un pédophile, et c'était un moment intense, et je suis obligé, moi en tant qu'être humain, de partager ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et cette dichotomie entre Hippocrate qui dit on soignera tout le monde sans juger, et moi Dalil qui suis en mode bah putain,
un pédophile quand même.
Ah, tu es en mode ok, c'est maintenant que ça s'applique, comment je fais, tu vois.
Ouais, bah oui, parce que faut le rappeler, pédophile, c'est parce que je connais aussi le monde de la justice, mais pédophile, ça ne veut pas dire pédocriminel. C'est qu'il y en a certains qui ne passent pas jamais à l'acte. Donc,
tout à fait.
Et souvent, ils sont suivis pour justement permettre de, qu'ils ne passent jamais à l'acte.
Tout à fait.
Donc, mais c'est vrai que c'est des sujets tellement tabous dans nos sociétés.
Exactement.
On a tellement peur de, d'aborder ça que.
Bah oui.
Mais bon, tu en parles justement sur scène, je ne veux pas divulgager.
Non.
Mais tu te frottes justement à ces tabous de société où on ose rarement se confronter à ça, puisqu'on. On n'ose pas mettre des mots, mais justement, en, le fait d'en parler, ça peut aussi permettre de couper ce tabou et donc de sortir ces...
Oui. Moi, je suis convaincu que c'est très important de le faire, mais tu vois, rien que là, quand j'ai prononcé ce mot-là, il est parfois difficile parce que tu sais très bien que ça va mettre une tension, tu sais jamais... Comment les gens vont réagir. Les gens connaissent pas mon histoire personnelle.
Ouais.
Moi, je connais pas l'histoire personnelle des gens.
Il y a sûrement des victimes parmi le public.
Il y a sûrement des victimes parmi le public, des victimes parmi les artistes, des publics. Donc, en fait, c'est comme ça. Et donc, c'est vrai que tout de suite, aborder ça, en plus, avec l'aura que tu as sur scène à ce moment-là, le rôle qu'on te donne, ouf, c'est parfois intense. Mais je suis convaincu que réussir, et bien sûr, des fois, ça veut dire se tromper.
Bien sûr,
ça veut dire aussi se tromper, et c'est se tromper avec ces termes-là, donc c'est parfois des erreurs qui sont plus visibles que d'autres, mais je pense que c'est important, bien sûr, de délier la parole et que ça se fasse en plus grâce au prisme de l'humour, rajouter du rire là-dedans, même si c'est parfois périlleux, je pense que ça peut nous apporter beaucoup de bonnes choses.
Oui, effectivement, et dans l'humour, l'échec fait partie de la réussite, entre guillemets, puisque le test, c'est on ne peut pas arriver à des bonnes blagues sans échouer.
Exactement.
Sur certaines blagues. Et justement, on va juste continuer de digresser, mais on va reprendre là le trame. C'est vrai que c'est intéressant, moi je trouve ça même passionnant, mais là, dernièrement, j'ai écouté justement un interview qui expliquait que MeToo a mis en lumière les violences sexistes et sexuelles qui existaient dans notre pays, qui étaient en fait un problème systémique, et que la prochaine étape d'après l'intervenant, c'était que les violences faites aux enfants allaient elles aussi sortir de l'ombre, puisqu'ils expliquaient qu'il y aurait de plus en plus d'affaires qui allaient sortir dans les médias et qu'on allait de plus en plus se pencher parce que c'était un tabou et en fait on n'osait pas en parler. On se rend compte, notamment au travers de grandes enquêtes, il y a eu l'Église là, il y a quelques années, et maintenant on se rend compte que c'est toute la société en fait, pas seulement l'Église.
Bah oui, c'est systémique.
C'est systémique, donc justement c'est de mettre en avant ces sujets-là, c'est participer en fait à faire en sorte qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs sur des générations et des générations.
Bien sûr, ça fait partie d'une certaine éducation. C'est différent de mon point de vue. Moi, je l'aborde vraiment comme je l'ai rencontré, c'est-à-dire vraiment
avec un regard neuf.
D'individu à individu. C'est vrai que je n'ai pas forcément cette notion de groupe, ni même de système, de présence systémique, en tout cas dans notre société. Mais c'est vrai que je pense principalement que délier la parole, ne serait-ce même d'une personne à une autre, de discussion à une autre, fera que petit à petit, il y a des choses qu'on acceptera moins, tout simplement.
Et ouais, moi, je ne peux pas m'empêcher de poser des questions parce que je suis toujours curieux, Dalil. Mais c'est vrai que moi, on m'avait expliqué que la folie, ou en tout cas ce qu'on caractérise comme la folie pour le commun des mortels, ou en tout cas des troubles psychologiques, c'est souvent le fait de taire des choses et de ne pas réussir à gérer une anxiété, un stress. Est-ce que c'est bien vrai ou pas?
C'est particulier, en fait. Il y a tellement de choses qui sont présentes dans le domaine de la santé mentale et encore plus dans celui de la psychiatrie. Il y a des vrais troubles, des vrais troubles mentaux qui sont associés à plein de facteurs, qui sont associés à des facteurs d'origine génétique, d'origine développementale, d'origine épigénétique, d'origine totalement subite, avec par exemple un trauma, un stimulus émotionnel fort. Donc réduire ça au fait de simplement taire une émotion serait, comme je l'ai utilisé, trop réducteur. Par contre, il est évident que l'idée de ne pas extérioriser, pour moi, en tout cas d'après mon expérience, est néfaste. Je pense que c'est un des sujets clés en santé mentale, et notamment dans les établissements de santé mentale comme les hôpitaux psychiatriques. Souvent, ce qui caractérise, entre guillemets, je mets vraiment des énormes guillemets, un fou pour les gens dans la rue, c'est quelqu'un qui va s'exprimer fort, qui va exprimer des émotions totalement... de manière totalement libérée. Il va crier, il va chanter, il va taper, il va hurler de rire. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces réactions? ah, là, on voit en tout cas quelqu'un qui s'autorise à extérioriser. Et moi, quand je vois ça, ils m'ont beaucoup appris sur ça, ces patients-là. Parce qu'en fait, ils arrivent avec une telle liberté que des fois, on se dit, mais attends, mais putain, mais...
C'est un stand-upper qui s'ignore.
Mais déjà, ils sont plus drôles que nous. Et surtout, en fait, j'ai même pas envie de dire ils sont plus drôles que nous. C'est vraiment, je suis convaincu que la frontière, elle est fine. Hein, que chacun a des moments de fragilité et que chacun peut accéder, entre guillemets, à sa folie. C'est quelque chose de très difficile à aborder sans faire d'erreur. Ce que je dirais, c'est que, en tout cas, moi, connecter et apprendre à communiquer avec certains patients qui ont des symptômes qui s'apparentent aux yeux des gens qui ne connaissent pas ce monde-là par le terme fou, ben, ça m'a appris plein de choses. Et ça m'a appris aussi qu'on avait besoin d'exprimer nos émotions et que parfois on pouvait s'autoriser à les exprimer, parfois un peu fort. C'est-à-dire que si on est en colère, ben, on a tellement de colère en nous qu'on n'ose pas... exposé, bah à un moment donné, on peut craquer. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste. En tout cas, moi, ils m'ont beaucoup fait avancer sur l'acceptation de nos émotions.
Donc ça, c'est un chemin. Donc on va quand même parler de ce spectacle, Dali.
Tout à fait.
Parce que moi, je pourrais passer 3 heures à parler de psychiatrie, c'est passionnant. Mais donc, première consultation, ce premier spectacle. Donc, est-ce que déjà, pour la première question, c'est de savoir, est-ce que tu as voulu un fil rouge? J'imagine que première consultation, il doit avoir un lien, mais...
En fait, au début, je voulais l'appeler dialogue. Mais le nom dialogue est naze. Donc, j'étais pas satisfait du tout. J'ai fini mes études par une thèse sur le stand-up. Je commence le stand-up par un spectacle qui s'appelle Première Consultation. Mmh. Donc, il y a une espèce de dichotomie, une espèce de contradiction. En même temps, c'est aussi un fil rouge. J'ai appris après que c'était le nom de l'album, du premier album, je crois, en tout cas, qui a bien marché, de Doc Gineco.
Ah
j'ai
bon.
Pas du tout fait exprès.
Ah donc, oui, c'est vrai.
Eh ouais, on me l'a dit. On
mais
m'a
oui,
dit, il y a des fans qui.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Parce que je suis pas forcément fan de tout ce qu'il a fait.
Bien.
Voilà, tu vois. Ouais, mais tu vois, j'étais là en mode, ok, bah d'accord. Donc je réfléchis encore. je réfléchis encore à changer le nom. Je me souviens, j'étais avec un ami, Fabien Goduzzo, on était sur le trottoir, et on se dit, mais attends, mes gars. Première consultation, c'est la frappe, non ? Et en fait, on n'a pas pensé à ça.
Ah merde, j'ai pas du tout pensé non plus.
Et du coup, tout le monde me dit, mais tu l'as fait exprès ? J'ai dit, mais non, j'ai pas fait exprès. Et donc voilà, je réfléchis à le changer, mais en même temps, j'aime ce titre parce qu'il me représente. Il y a un fil rouge, évidemment. Le fil rouge, et comme je le dis depuis tout à l'heure, un peu en filigrane, c'est de montrer que plein de moments de la vie peuvent être une consultation et de montrer que finalement, on est tous d'abord notre propre patient.
Ouais, on est tous face à soi-même aussi à réfléchir où est notre propre folie. Mon père me le dit souvent, le monde est un grand hôpital psychiatrique, il faut juste savoir où sont ces... toi, tu as construit ce spectacle seul ou tu t'es aidé d'amis ou d'influences extérieures pour le préparer ?
Non, je l'ai construit seul. Bien sûr, il y a certaines idées qui ont pris forme en parlant avec des amis, qu'ils soient humoristes ou pas du tout, en parlant avec ma famille, en pensant à mes collègues, inspiré de certains moments de vie à l'hôpital. Par contre, la suite du spectacle, maintenant que ça se professionnalise, ben il y a mon psy qui m'aide beaucoup.
Gros big up à lui. Hein.
pour le spectacle.
Parce que oui, les psychiatres ont des psys, que les gens le sachent.
Non, ouais, je me suis accompagné de Ryan Zeroni pour un travail de... Alors, je dirais pas forcément co-auteur, mais en tout cas, on réfléchit ensemble à la structure du spectacle. Vera Penuela, qui elle m'accompagne à la production... Et voilà, c'est déjà pas mal. Hein.
Oui, bah c'est une belle équipe déjà pour une équipe du Garage Comedy, Madine Garage Comedy, qu'on salue bien. Justement, on parlait de ces premières scènes, donc géniales que tu as vécues. Et est-ce que, moi j'aime bien poser cette question, est-ce qu'il y a une scène traumatisante ? Est-ce qu'il y a une scène, comme on appelle dans le milieu bide, où tu t'es dit « waouh, ça fait mal » Ou tu as toujours réussi à naviguer même dans les moments les plus...
En fait, comment dire, je pense que quand t'apprends à évoluer dans le monde de la médecine, en vrai, monter sur scène, en tout cas, je parle pour moi, ça fait pas si peur que ça. Mmh. Parce que, je veux dire, quand la journée ou la nuit, tu gères des choses vraiment urgentes, bon, bien sûr que tu stresses sur scène et t'as pas envie de bider et que ça blesse, mais il y a des priorités. Ouais. Le fait de travailler en même temps en étant médecin fait que t'es en mode, bon, ok, c'était chiant, mais par la force des choses, t'as besoin d'être concentré. Mais je me souviens quand même d'une scène que j'ai faite en Corrèze, dans un tout petit village qui s'appelle Neuvic. Hein, vraiment, c'est un village, il doit y avoir peut-être 1000 habitants. Peut-être je dis une bêtise, mais c'est vraiment perdu dans un très beau domaine à côté d'un lac. Et il y avait une fête, un petit marché nocturne de village avec des producteurs. Et on m'a dit, tiens, tu veux faire une petite scène de rap et tout? Et tout le monde était installé à sa table en train de manger. La population est d'âge moyen élevé. Et j'avais fait une faute de grammaire. J'avais dit la tentacule d'une méduse. Et pendant mon spectacle, et je le fais, ça dure 8 minutes. C'est un bide atroce, mais vraiment atroce. Il y a 80 personnes. C'est atroce. Tu entends les oiseaux, tu entends tout sauf des rires.
Tu vois ramer de façon publique.
Ah oui, là tu rames, c'est très fort. Et il y a quelqu'un qui, juste à la fin, me dit hey, c'est un tentacule, hein. Garde-la, celle-là au moins. Voilà. Et là, je me suis dit, ok, j'étais bien payé, mais c'est horrible.
Ah oui, là, ce moment-là, tu dis, bon, il a fallu se battre pour jusqu'au bout. Ouais,
exactement.
Ouais. Bah, écoute, c'est une belle expérience. Merci de partager ce trauma. Il faut laisser l'extérioriser, c'est important de ne pas le garder.
Avec plaisir.
Ouais, donc c'est le souvenir. Mais effectivement, c'est vrai que quand on est à l'hôpital, moi, je sais que je ne sais plus quel humoriste me disait, oui, bon, en tous les cas, c'est des blagues, hein, même si on rate, il n'y a pas mort d'homme.
C'est ça.
Et c'est vrai que c'est bien de s'en souvenir. Souvent, nous, les humoristes, on prend ça comme si c'était la chose la plus importante sur Terre, la prestation sur scène. Mais il y a d'autres choses bien plus importantes.
Oui.
Et quand on est dans un hôpital, on s'en souvient. Justement, Dali, je voulais savoir si tu avais ton expérience maintenant, ton retour sur le monde du stand-up. Tu as joué sur beaucoup de scènes, tu as rencontré beaucoup de monde. Si tu devais donner un conseil à un jeune humoriste qui commence le stand-up ou une jeune humoriste, qu'est-ce que tu lui donnerais?
Je lui dirais avant tout de s'amuser. Vraiment, la quête de réussir à prendre du plaisir, c'est très important. Plus on avance, et franchement, ça fait... Plus on avance, en fait, plus on accède à des scènes qui sont cool, à jouer avec des gens qui sont importants dans le milieu, accéder à des belles premières parties, des salles plus grandes, faire complet ailleurs et tout ça. Plus on se professionnalise, en fait, plus la notion de plaisir, en tout cas de mon côté, hein, elle peut parfois s'échapper. Parce qu'on a la pression, parce qu'il y a de l'enjeu, on se compare, c'est un milieu très compétitif. Et on peut avoir du mal à garder cette notion, alors que je pense qu'elle est centrale. Des fois, quand on joue, on se dit « Ah, j'aimerais bien que lui me voie, c'est le programmateur du lieu. Si je bide, il ne va pas me reprogrammer. Si je réussis, il va me programmer plusieurs fois. Je vais accéder à tel truc. » Je pense que vraiment, la notion de plaisir est importante et centrale. On en parlait, toi et moi d'ailleurs, on se disait que souvent, toi tu me disais que tu méditais avant d'écrire.
Ouais.
Moi je médite des fois avant de partir sur scène ou même dès que je suis revenu pour essayer de revenir vraiment à un état un peu, pas neutre, mais plus tranquille, où je me dis, ok, là j'ai toute l'excitation qui diminue un peu et qu'est-ce que je peux ressentir? Ok, je ressens du plaisir. Heureux d'être monté et d'avoir vécu ça.
L'euphorie.
Et ben ouais, c'est important de revenir à cette notion-là. Donc je pense que vraiment, c'est le conseil que je donnerais. Et le second, juste après, de ne pas trop écouter les conseils.
Oui. Oui, excellente. Je pense que c'est un excellent conseil puisque souvent tout le monde a un regard et même chez les médecins d'ailleurs, hein, même quand il y a un problème de santé dans une famille où il y a des médecins,
très bonne.
Chaque médecin a un regard différent. Donc en fait, il faut se dire, les gens ont tous leur avis et ils ne sont pas forcément toujours bons.
Exactement.
Donc, ouais, mais c'est vrai que il faut s'écouter soi et ça, c'est un vrai challenge. Dalil, ce premier spectacle, tu l'as déjà joué. Je voulais savoir déjà qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as joué, comment ça s'est passé.
Je l'ai joué 3 fois au Garage Comédie et une fois au Bobard Comédie Club à Nice.
Oui, très beau Comédie Club d'ailleurs.
Ouais, très beau, on leur fait une petite dédicace, franchement, ils sont trop cool, Pascal et Caro. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Franchement, c'est la frappe, hein, de pouvoir faire ton spectacle. Comme dit Roman dans sa dernière vidéo, en fait, un spectacle, c'est pas juste un spectacle. Roman Frécinet, il dit, c'est aussi un passeport. Franchement, quand tu as ton spectacle et que tu peux accéder à certaines salles, que des gens te font confiance, que ce soit des petites salles, des petits bars ou même un vrai comedy club, en vrai, c'est un moyen de te balader, de pouvoir gagner ta vie en faisant un truc cool. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Donc, par rapport à ça, j'ai ressenti déjà une certaine liberté. Quand je suis revenu de Nice et que je me suis dit, putain, ok, j'ai fait complet à Nice, je me dis, ok, donc en fait, là, c'est possible de faire complet dans une autre ville. Je suis parti tout seul, j'avais pris mon Airbnb. Franchement, j'ai pas gagné beaucoup d'argent parce que Airbnb à Nice, c'est cher. Mais t'es en mode, ok, donc en fait, c'est possible. Donc déjà, un sentiment de liberté. Aussi, je pensais que j'allais être plus stressé que ça. Et en fait, c'est un moment où tu te dis, ok, finalement, tu te rends compte, tu sens que les gens, ils sont venus te voir. Et il y a une forme d'exigence qui est moindre. Parce que dans les comédie clubs, il y a la notion de, il faut casser la salle.
Ah, efficacité sur 10 minutes, blague.
C'est ça, blague, il faut vraiment être efficace. Alors que sur ton spectacle, tu as une heure. Donc bien sûr qu'il y a une certaine efficacité, on est là pour rire, mais on est là aussi pour partager un moment, on est là pour apprendre à se connaître, et ce sentiment, il est agréable. C'est comme si tu venais de passer d'un fauteuil assez restreint, mais de bonne qualité, un fauteuil à la mode, un fauteuil très stylé, à un truc un peu moins vendeur, mais bien confortable.
Ouais, où t'es heureux de t'installer.
C'est ça.
C'est vrai que bah, j'imagine que ça devait être une bonne sensation. Et puis la connexion aussi avec les gens qui est multipliée par 10, j'imagine.
Mais oui, en fait, comme tu dis, c'est un moment qui est propice. Moi, je fais monter des gens sur scène. Carrément, là, ça fait 3 fois que je fais monter des gens sur scène. Parce qu'en fait, je me dis, mais attends, t'as une anecdote de fou à raconter. Mais viens.
Ouais, trop bien.
Et en fait, ils racontent leur anecdote particulière. Et en fait, on passe un trop bon moment. Ouais. Bien sûr, je les vanne parce que j'adore ça. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment cette idée-là. T'as utilisé le mot connexion. Pour ces moments-là, il est primordial parce qu'en fait, tu te rends compte que tu veux rire, mais tu veux sauter. Tu cherches du lien aussi, en vrai.
Ouais, bien sûr. Et justement, alors, on va enchaîner sur la connexion. C'est une question que je pose souvent aux humoristes. Est-ce que toi, tu fais ça de manière consciente ou inconsciente? Est-ce que tu as une manière de connecter avec les gens? Parce que la connexion, justement, elle est indispensable pour que les gens rient. Il faut qu'ils soient avec toi pendant la scène. Comment tu fais pour justement casser cette barrière et trouver, entre guillemets, le flux? On passe sur du spirituel, hein, mais...
Ouais, non, mais c'est vrai que t'as la notion de flux, elle est importante. On en parlait aussi avec Slimane Kaïssa, un tonton du stand-up sur...
grand nom du stand-up.
Sur Marseille.
Ah, bien sûr.
On disait, oh, qui c'est là qui a le fluide, qui a pas le fluide? On parlait vraiment comme ça. Tu sais, les discussions à 3h du
qui
mat dans la
mojo.
Rue. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment ça. Il y a un truc qui se passe. Tu sens entre les sièges des gens, dans l'espace, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui habite petit à petit cet endroit. Et pour te répondre, franchement, je le fais de manière inconsciente, mais parce qu'en plus, je pense que c'est devenu une habitude vis-à-vis de mon métier, pour le coup, où je suis toujours obligé d'apprendre à connecter avec des profils différents, d'une consultation à l'autre, des profils qui, parfois, ont pas envie de connecter avec toi, et apprendre aussi à naviguer là-dedans. Donc comment je connecte? J'essaye en tout cas de... Mon père me disait souvent au début mes premières scènes, quand je stressais, je l'appelais beaucoup avant, il me disait: Dalil, partage, juste partage. T'as pas besoin de vouloir toujours être drôle, juste partage. Et c'est avec lui que les premières fois, je me suis dit, ok, quand j'arrivais stressé, je disais aux gens, écoutez l'équipe, là je suis grave stressé. Est-ce que vous êtes ok de me donner de la force? Et en fait, j'assumais ça. Et donc... j'ai commencé à connecter en partageant ce que je ressentais plutôt que délivrer tout de suite mon sketch.
En adressant, ouais.
C'est ça. Et donc, petit à petit, ça, je pense que ça s'est gardé, mais de manière implicite. Bon, et en étant plus à l'aise, eh ben, tu vois, tu connectes. T'as envie d'être là, donc tu connectes, en fait.
Tu connectes beaucoup mieux. Bah, magnifique, Dalil. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de venir découvrir ce spectacle et de te voir parler de ton métier, mais aussi de toi, de ton parcours et de comment on passe de 10 ans d'études en médecine aux scènes et comment les deux se sont liés, justement. Dalil, pour te retrouver, on fait comment? On sait qu'on te voit.
Doctolib. Moi, l'équipe, c'est... Moi, l'équipe,
c'est... Dalil, t'arrives sur son
Moi, c'est... Non, pour me retrouver sur les réseaux
Magnifique
sociaux.
Magnifique promotion de...
Non, en plus, je suis pas sur Doctolib, l'équipe, j'ai pas le droit de faire de la pub médicale. J'ai pas de cabinet, tout le monde se calme. Non. Sur les réseaux, évidemment, sur Instagram, Dalil Tari. Mm-hmm. C'est le seul réseau vraiment que j'ai. Et c'est déjà bien.
Oui, c'est déjà pas mal. Et on te retrouve sur scène au garage aussi, bien sûr.
Bien sûr, c'est ça, sur scène au garage. Bah, déjà sur scène pour les plateaux, sur tous les comédie clubs de Marseille, que ça soit le Vieux-Port, le Vix, l'Ardu, le Garage, le MCC. Et sinon, bah, comme tu dis, tous les mois, une date par mois, donc avant au garage, et là je le dis, nouveau lieu du garage qui ouvre.
Ah, ça y est, on peut le dire.
Ouais, hier Quentin l'a dit sur scène. Donc,
ça y est, c'est officiel. Donc,
il l'a dit devant nous, oui. Je me dis, on peut y aller.
Donc, le garage comédie ouvre une salle annexe, voilà.
C'est ça, le garage comédie club ouvre une autre salle qui s'appellera La Grange, pas loin du Zoumaï. Voilà, moi c'est ça que j'ai.
La brasserie Zoumaï, ouais.
La brasserie Zoumaï, pas loin de Castella, donc une super salle de stand-up, vraiment pure stand-up, 50 places en 180 degrés, quelque chose d'assez intense, une fois par mois là-bas, l'équipe, hein, première
Génial.
Consultation.
Bah, ça va être l'occasion aussi, voilà, de roder ce spectacle et puis ensuite de le faire traverser toute la France. On va terminer sur une question de projection, justement, Dalil. Est-ce que tu peux me dire, toi, où tu te vois dans les 10 ans en tant qu'humoriste, mais aussi en tant qu'humain?
Dans les 10 ans?
Ouais, dans les 10 ans. On vise loin.
Incroyable.
Et inch, t'as la santé, tout va bien.
ouais, c'est ça. Alors, si dans 10 ans, déjà, je suis toujours en vie, merci beaucoup, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Hâte de toutes ces aventures-là. Dans 10 ans, j'aimerais bien avoir une femme,
ouais,
tout à fait, dans ma vie. Avoir, pourquoi pas, des enfants aussi dans ma vie. Avant tout ça, si l'humour fait partie de ma vie à ce moment-là, tant mieux, franchement, merci, mais j'aimerais juste être proche encore de ma famille et tout ça, quoi. Le stand-up, en vrai, dans 10 ans, j'y pense pas.
Ok, mais d'abord la famille, et puis Dali est un cœur à prendre, c'est un message, c'est une bouteille à la mer qu'on lance.
06, 69.
Allez, merci à toi Dali, et excellente journée, et bon courage, et force à toi pour ce premier spectacle.
Merci beaucoup, merci à toi Yacine, merci.